Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct bien sûr sur RTL avec toute l'équipe de l'heure du crime. C'est bien sûr Périne Suquet, c'est Margot Agnès et c'est aujourd'hui Marc Bisset qui est avec nous à la technique de l'heure du crime. Et à la une, une émission spéciale sur l'affaire Amanda Knox, une affaire criminelle qui a passionné toute l'Italie, qui a déchiré l'opinion en Amérique, en Angleterre et sur Internet aussi depuis... sept longues années, une affaire avec tous les ingrédients d'un épisode de Columbo ou d'un épisode des experts jusqu'à l'épilogue. Hier soir, en début de soirée, on apprenait, d'ailleurs dans le flash de 23h, le flash de Julien Cellier, on apprenait la lourde condamnation d'Amanda Knox et de son compagnon.
Amanda Knox et Raphaël Solezzi sont de nouveau condamnés à 28 ans et demi et 25 ans de prison ce soir à Florence, en Italie. L'Américaine et son ex-petite amie étaient rejugées pour le meurtre de leur colocataire britannique, Meredith Kercher, qui avait été poignardée à 47 reprises en 2007. En 2011, Knox et Solezzi avaient été acquittés, mais la Cour de cassation avait demandé un nouveau procès. Amanda Knox en avait toutefois profité pour regagner les États-Unis. Elle n'était donc pas présente à l'audience ce soir.
Et l'affaire judiciaire est terminée, mais les débats continuent bien sûr, et c'est pour cela que nous revenons avec mes invités sur les nombreuses questions qui se posent encore et sur les zones d'ombre que nous allons tenter de décrypter ensemble. Donc les invités de l'heure du crime aujourd'hui, personne en studio avec moi, tout le monde est au téléphone. D'abord, Mario Spezzi, bonjour Mario.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour l'édition florentine du Corriere della Sera. Vous êtes également écrivain et vous connaissez cette affaire évidemment qui vous a passionné. Première question, que dit la presse italienne ce matin, Mario ?
Il y a différentes positions. Disons qu'il y a une position qui se limite à rapporter les faits sans donner des explications. Pas d'accord, enfin.
Oui.
Et il y en a d'autres, et je parle aussi de journaux, comment dirais-je, qui ne sont pas des journaux révolutionnaires, je veux dire, ce sont des journaux très
institutionnels,
très bourgeois, si vous voulez, comme la Stampa de Turin, qui parle évidemment d'une justice italienne qui va au-delà de soi-même, disons, et qui fait des condamnations, ça c'est terrible, sans preuve, car ça, c'est une question.
C'est la question qui va demeurer.
À discuter. Eh oui. Pardon, je vous.
Oui, je vous en prie, allez-y.
Ce n'est pas à discuter, c'est un fait. Mm-hmm. Il n'y a pas de preuves.
Ouais.
Il y a quelques indices. Mm. Et sur la base de ces indices, ils ont été condamnés. Or, cela, ça fait peur. Comme Amanda, à ce qu'il paraît, elle a dit, même à moi aussi, ça fait peur, une justice qui condamne sans preuve.
Voilà, alors évidemment, mais ça, on y reviendra dans l'émission. On a dit aussi, je parlais des rumeurs sur Internet, qu'il y avait une machination derrière cette affaire judiciaire, une occasion pour la justice italienne de dissimuler finalement à l'opinion une enquête bâclée, des constatations de police scientifique ratées, etc. On va revenir sur ces aspects du dossier avec vous, tout à l'heure. Oui, à tout de suite, Mario Spezzi. Donc, en direct de Florence, John Follin. Bonjour, John.
Bonjour, Jacques.
Vous êtes correspondant en Italie pour le journal britannique Sunday Times. Vous êtes à Rome, je crois, vous.
C'est ça, oui, à Rome.
Oui, et donc vous avez assisté, comme Mario Spezzi et d'autres journalistes, bien sûr, à ce procès. Quel est le sentiment de la presse britannique ce matin ? Est-ce qu'on peut dire que l'opinion britannique est derrière la famille de Meredith Kercher, la famille de la victime ?
Oui, je pense que dans ce cas-ci, depuis le début, depuis que les premiers éléments de l'enquête sont sortis dans la presse italienne et aussi britannique, les Anglais ont plutôt eu tendance à s'identifier avec Meredith Kercher et sa famille, tandis que les Américains se sont identifiés plutôt avec Amanda Knox. Oui. Et donc l'opinion publique en Angleterre, a jugé par les journaux, par les télévisions, est comme la famille Kercher, plutôt convaincue de la culpabilité d'Amanda Knox et de son ex-petite amie Raffaele.
Voilà, et d'ailleurs l'attitude très digne, paraît-il, de la famille et de la victime a été notée par tous les observateurs, en fait, hein, tout au long du procès.
Oui, il y a un grand contraste, en fait, et l'avocat de la famille Kercher s'est plaint de ceci, du fait que il y a eu un grand battage médiatique, une grande campagne de relations publiques qui a été menée par Amanda Knox et par sa famille aux États-Unis, mm-hmm. qui a influencé l'opinion publique américaine. Il y a des sondages qui montrent que en Amérique, une majorité des Américains croient à l'innocence d'Amanda et aussi de Raffaele, mm-hmm. et la famille des Kercher s'en est plaint pour dire qu'il aurait mieux fait d'être plus discret.
Oui, bien sûr, et en fait, on parle toujours de l'affaire Amanda Knox, on devrait plutôt parler de l'affaire Meredith Kercher, puisque c'est elle, cette jeune étudiante britannique d'origine indienne, colocataire de l'appartement qu'occupait avec d'autres Amanda Knox à l'époque, en 2007, c'est elle qu'on a retrouvée à demi-nue, violée, assassinée de 47 coups de couteau dans cette villa de Pérouse en Italie, au matin du 2 novembre 2007. Alors, on n'a pas encore de réaction d'Amanda Knox. Je suis allé personnellement faire un tour sur le site internet Friends of Amanda .org, hein, je vous le dis comme ça au passage, mais on le mettra également sur RTL.fr. Il n'y a pas de réaction pour l'instant, mais on entendra tout à l'heure l'opinion, les propos d'Amanda Knox grâce à vous, Lionel Feuerstein. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Et merci d'être en ligne avec nous. C'est que c'était pas facile pour vous aujourd'hui.
Malheureusement. <ouais. rire>
samedi dernier, vous avez diffusé sur France 2 dans le magazine de la rédaction 13h15 le samedi un reportage extrêmement complet sur cette affaire. Vous êtes allé sur place, vous avez rencontré les témoins, vous avez rencontré les différents acteurs de cette affaire. Dans cette même émission, on voyait également et on entendait Amanda Knox, interrogée par Maryse Burgot, là-bas aux États-Unis. Vous n'avez pas non plus de réaction d'Amanda Knox, là, au moment où on parle.
Elle s'est exprimée, en fait, sur les réseaux sociaux et aux États-Unis. Hein. Elle se dit attristée et effrayée. Hein. Elle était, ses avocats ont rappelé ses propos, elle était extrêmement sous le choc et elle se dit victime d'une décision qu'elle juge complètement injuste. Hein. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Hein. C'est un coup de massue. On peut aussi donner quelques nouvelles, si vous me le permettez, de Raffaele Sollecito, que j'ai essayé de joindre. Malheureusement, je n'y suis pas arrivé. Peut-être que Mario Spezi, avec lequel nous avons travaillé, qui nous a beaucoup aidé, hein, sur ce reportage-là, pourra nous en dire davantage. Mm-hmm. Mais il a été arrêté près de la frontière slovène ce matin, près de la petite ville d'Udine, mm-hmm. aussi, puisque des policiers ont cherché à le joindre. Il était à l'hôtel. Et il va être, malheureusement, son passeport va lui être confisqué. On va lui demander sans doute une caution et il va devoir rester en attendant, parce que la procédure n'est pas finie, hein, il y a encore une procédure de la Cour de cassation, la Cour suprême italienne, je pense que mes confrères pourront s'exprimer là-dessus.
Oui,
donc tout n'est pas bouclé encore. Hein. Mais en tout cas, Raphaël, lui, à partir d'aujourd'hui, est bloqué en Italie définitivement. Quant à Amanda Knox, elle, malheureusement, reste pour l'instant aux États-Unis et... On va en reparler, j'imagine, tout à l'heure. Ouais. Il y a le problème de l'extradition. Est-elle extradable ou pas? Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure.
Absolument. Alors, on va se retrouver tous ensemble dans un instant pour revenir quelques instants pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'auraient pas le dossier en tête. On va reprendre simplement les circonstances de départ et puis voir ensemble comment il est possible qu'en 7 ans et 3 procès, la justice italienne se soit finalement prononcée une fois sur le même dossier, en fait, hein, pour la culpabilité et pour l'innocence des accusés. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Amanda Knox, celle que la presse italienne avait baptisée la diabolique au visage d'ange, est-elle coupable comme la justice italienne vient d'ailleurs de se prononcer dans ce sens hier, ou est-elle innocente? Nous vous proposons une émission spéciale sur cette affaire vraiment qui dure depuis de très très nombreuses années avec des rebondissements, des coups de théâtre incroyables, et nous vous proposons cette émission avec trois des journalistes français, italiens et britanniques qui connaissent le mieux ce dossier. Mario Spezzi, que nous allons rejoindre dans un petit instant à Florence. John Follin, lui le correspondant du journal britannique Sunday Times, qui est à Rome. Et tout de suite, on retrouve Lionel Feuerstein, donc journaliste à France 2, auteur de ce documentaire dont on parlait tout à l'heure. Dans le film qui a été diffusé la semaine dernière donc sur France 2, samedi dernier, Amanda Knox, interrogée par Maryse Burgot, se remémorait le moment où elle était arrivée dans la maison où se trouvait le corps de la victime, Meredith Kercher. Quand elle est arrivée, a-t-elle dit, les policiers étaient déjà sur place.
Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans cette chambre. Je n'étais pas là quand les policiers ont cassé la porte. Et quand ils nous ont demandé de sortir de la maison, je ne comprenais même pas ce qui se passait. J'ai seulement compris quelques mots. Sang, pied, Meredith, un placard, un corps. J'essayais de réunir tous ces éléments dans ma tête et je me sentais perdue. La dernière fois que j'ai vu Meredith, c'était l'après-midi. Elle s'était réveillée tard car elle avait passé la nuit dehors pour Halloween. Je me souviens qu'elle se lavait le visage pour se débarrasser de son maquillage d'Halloween. Elle m'a saluée dans la cuisine, mis son linge à laver, puis elle est partie se changer. Ensuite, Raphaël est venu déjeuner. On a mangé et Meredith est ressortie avec ses amis. Je lui ai dit au revoir. Ciao.
Voilà donc un extrait du magazine 13h15 le samedi, magazine de la rédaction de France 2. Alors peut-être on peut tout de suite, Lionel Feuerstein, en quelques mots, raconter les circonstances. D'abord, on découvre ce corps au matin du 2 novembre 2007, mais il faut parler un peu des personnages. L'étudiante anglaise, la victime, a 20 ans, Meredith Kercher. Tout ça se passe dans la ville de Pérouse. Amanda Knox est une étudiante américaine qui est venue là à l'université étrangère pour apprendre l'italien. Et ce sont donc tous des étudiants dans cette ville-là.
Oui, c'est ça. Amanda, en fait, elle est originaire de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. Son papa travaille dans la finance et elle a des parents divorcés. Elle est en deuxième année de fac, elle veut devenir interprète et elle se demande où est-ce qu'elle pourra passer une troisième année à l'étranger. Elle hésite un peu en Allemagne où elle a de la famille, elle a une tante qui vit là-bas, mais elle est fascinée depuis l'adolescence par la culture italienne, alors elle s'imagine un peu vivre la Dolce Vita et y faire un séjour d'un an, d'abord à Pérouse, puis éventuellement à Rome, et c'est à la fin de l'été 2007 qu'elle arrive en Italie avec sa sœur et elle va s'installer...
Deux mois à peu près avant le drame, quoi.
C'est ça, hein. Et elle va s'installer début octobre, 1er octobre, c'est le début des cours à l'université pour étrangers, où elle va rencontrer Meredith Kercher, parce qu'elles vont habiter toutes les deux la même villa, qui est une villa que nous avons filmée samedi dernier, dans le reportage qui a été diffusé, qui a vraiment une vue sur toute la vallée, hein. Pérouse est une ville médiévale, très belle, petite bourgade, mais beaucoup d'étudiants étrangers viennent étudier l'italien là-bas. Et elle va habiter dans cette ville-là avec deux autres colocataires italiennes, plus des colocataires à l'étage en dessous, italiens aussi. Et pendant les premières semaines, elle va être avec Meredith Kercher, parce qu'elle connaît pas beaucoup de monde encore. Elle va avoir quelques petits amis. Elle va rencontrer Raphaël Sollecito. Et c'est avec Raphaël Sollecito qu'elle va rentrer ce 1er novembre dans la villa.
Voilà, c'est ça. Et donc, après, on va y revenir là-dessus à travers ce qui a été évoqué dans les différents procès. La police italienne va considérer qu'ils sont les présumés coupables de cet assassinat. Amanda Knox elle a dit, elle, bien sûr que c'est parce qu'elle avait été très bousculée par la police italienne, va avouer dans un premier temps et dénoncer quelqu'un qui va être innocenté assez rapidement, le patron d'un bar de la ville, voilà. Elle va se rétracter, elle va demeurer dans l'esprit, en tout cas des enquêteurs et certains du juge d'instruction, une coupable idéale. Est-ce que c'est votre avis, Mario Spezzi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce retour sur le début des événements qui fait que Amanda Knox et Sollecito, Raphaël, ont été considérés comme les principaux auteurs?
Il faut ajouter pas mal de choses. C'est très, très bien, c'est exact ce que Lionel a dit, mais il faut ajouter ça. Et les problèmes, l'origine du problème, si vous voulez, l'origine du mal, selon moi, est à Pérouse, dans la personne du juge, du procureur, disons, qui s'appelle Giuliano Mignini. Mm-hmm. Et c'est ce magistrat qui a fait l'enquête, qui a ordonné, qui a dit en amende et Raffaele le coupable. Il les a fait arrêter 4 jours après le délit. Mm-hmm. Et 4 jours après le délit, il a dit le cas est.
Oui, c'est-à-dire que l'affaire est bouclée, quoi. Voilà.
Voilà. Alors qu'il n'avait pas attendu aucune réponse de la police scientifique.
Ouais.
Il avait seulement eu un interrogatoire terrible d'Amanda et de Raphaël. C'est terrible parce que ça durait 20 heures, toute la nuit, sur une jeune fille américaine qui était en Italie depuis seulement un mois, donc vous imaginez comment elle connaissait l'italien.
Ouais, bien sûr.
Elle avait 20 ans et dans cette situation n'est pas facile pour personne. En plus, chose étrange, tous les interrogatoires en Italie doivent être enregistrés. Ouais. Or, regardez, seulement de ces interrogatoires, on a perdu l'enregistrement.
Ouais, quel dommage.
Bon,
ouais.
Et c'est dans cet enregistrement que Amanda, dans cet interrogatoire qu'Amanda fait sa soi-disant confession, etc. Bon, j'ajoute seulement ça,
oui.
Je m'excuse.
Oui, je vous en prie.
Alors que sur la scène du crime, c'est-à-dire la chambre de Meredith, il y a toutes les traces que vous voulez d'un troisième personnage qui s'appelle Rudy Guédé.
Oui, qui a été condamné déjà, jugé et condamné.
Mais il n'y a des traces que de lui.
Oui.
Il n'y a pas de traces de ADN, ni de Amanda, ni de Raphaël. Et alors, ils ont parvenu à dire qu'ils ont pu le nettoyer. Ça, c'est impossible que tout le monde le sait. Et je viens de vous signaler que sur Amazon, vient de sortir ce matin un petit livre qui s'appelle The Forgotten Killer, l'assassin oublié, Rudy Guédé et l'assassin de Meredith Kersh, qui était fait par des experts comme John Douglas, qui était un des grands chefs de la FBI, le judge Michael Eddy, par mon ami Douglas Preston, etc., pour montrer que cet assassin est le seul assassin de Meredith.
Alors, on vous retrouve tout à l'heure, et il faut juste préciser pour ceux qui nous écoutent que cet homme, Rudy Guédé, donc d'origine africaine, a été condamné, mais non pas pour meurtre, il a été condamné pour le viol de la victime.
Non, il a été condamné pour participation au meurtre avec des inconnus.
Voilà. Bon, alors on fait une première pause et puis ensuite on retourne à Rome retrouver John Follin pour savoir comment il a comment ces preuves ou ces absences de preuves qui avaient fait que en 2011 ils avaient été acquittés ont fait que hier ils ont été condamnés très lourdement et puis évidemment Lionel Feuerstein qui connaît les lieux qui est allé sur place nous dira sur ce, nous éclairera je l'espère sur cette bataille de police scientifique a-t-on ou pas trouvé l'ADN des uns et des autres sur un couteau sur dans la pièce etc on va essayer de faire la lumière sur cette zone très ombrageuse.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et nous revenons maintenant au décryptage de cette affaire Amanda Knox. On va d'abord en reparler avec Lionel Feuerstein. Parce que la question, Lionel, la question du mobile est évidemment très importante. Pour quelle raison cette étudiante de 20 ans, britannique d'origine indienne, aurait été aussi sauvagement éviolée et assassinée? Est-ce qu'on a pu reconstituer la soirée des uns et des autres? Parce que on parle beaucoup de cette nuit d'Halloween. Enfin, on trouve son corps au matin du 2 novembre.
Hein. Oui, c'est le lendemain d'Halloween que ça se passe. Hein. Voilà. En fait, la journée elle est assez simple. Raphaël, que nous avons rencontré à Florence en novembre, nous l'a raconté, Amanda aussi. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont déjeuné à la villa où était présente Meredith Kersher, qui revenait d'une soirée d'Halloween.
Ça, c'est la veille, c'est ce qu'elle racontait tout à l'heure.
Ça, c'est le 1er novembre. Hein. Mmh. Donc, elle se démaquillait, elle faisait son linge, puis elle est partie de son côté, rejoindre des amis britanniques avec lesquels elle a déjeuné, elle a dîné, pardon, le soir, et qu'on parle toujours de Meredith Kersher, et elle va rentrer vers 20h, 20h30 chez elle, Elle sera seule dans la villa, puisque on est sur un pont, et qu'aucun des colocataires, qui eux sont italiens, ne reste dans la villa pour ce jour-là. Donc elle est seule, hein, dans la villa.
D'accord.
En ce qui concerne Amanda et Raphaël, qui sont ensemble depuis quelques jours, ils vont passer la soirée dans leur studio, disent-ils, où elle va recevoir un petit SMS à un moment donné de Patrick Lumumba, qui est le bar du, qui est le patron du bar du film.
Qu'elle a mis en cause par la suite.
Voilà, qu'elle mettra en cause après 15 heures d'interrogatoire, dans des souvenirs assez flou d'ailleurs. Son patron va lui dire c'est pas la peine de venir ce soir, et du coup les deux amoureux vont passer la nuit au studio, disent-ils, hein, c'est toujours leur déclaration. Ils vont manger, Raphaël nous raconte ça très bien, hein, ils vont manger, ils vont regarder un petit peu un film français, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ils vont lire un peu d'Harry Potter, faire des mails, ils vont même faire l'amour, ils vont fumer un joint aussi, hein, il le dit très clairement, et puis se réveiller le lendemain matin vers 10h, c'est Amanda Knox qui part la première dans la villa pour prendre une douche, parce que chez Raphaël c'est un peu petit quand même. Et du coup elle va se doucher, elle va remarquer, il est vrai, deux traces mais pas très grandes de sang dans l'évier de la salle de bain. En sortant de la douche, elle va remarquer une autre trace de sang sur une empreinte sur le tapis de douche. Elle va commencer à s'inquiéter tout doucement, et là elle va voir dans les toilettes des excréments. Alors je sais que c'est pas très ragoûtant comme ça, mais pourtant c'est la réalité, qui va commencer sérieusement à l'inquiéter. Elle va repartir au studio chercher Raphaël, et tous les deux vont commencer à le rappeler, et le portable de Marie de Kercher, et ses parents aux États-Unis assez inquiets. Et c'est là qu'ils vont recevoir la visite de la police postale, puisqu'ils ont retrouvé deux téléphones portables appartenant à Meredith Kercher. Et c'est avec les policiers, là, qu'ils vont ouvrir cette porte restée fermée. Elle ne s'était pas vraiment inquiétée jusque-là. Et découvrir le corps, hein, sous cette couette dont on a montré l'image dans notre magazine, de Meredith Kercher, lardée de 47 coups de couteau.
Voilà. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure. Tout de suite, on va aller à Rome, rejoindre John Follin. Évidemment, tous ces éléments-là ont été débattus dans ce procès qui vient de s'achever, comme il l'avait été en 2011, et comme il l'avait été en 2009, quand ils avaient été déjà condamnés une première fois. Qu'est-ce qu'on peut penser des différentes preuves ou absences de preuves qui ont été mises en avant par l'instruction ?
Oui, Jacques, très très controversé, et dans le système italien, il y a une grande latitude, une grande liberté pour chaque niveau de la justice d'interpréter les preuves, de nommer des experts, et donc on a assisté pendant des années maintenant, les experts en ADN nommés par la défense disent blanc sur un argument, et les experts nommés par l'accusation disent noir. Donc c'est à chaque fois les juges qui doivent décider.
Sur des avis scientifiques opposés, donc.
Voilà, et ce sont donc les juges qui tranchent, et bien sûr des juges qui peut-être n'ont pas des spécialisations scientifiques, etc. Donc dans ce système qui faut dire est très long et très lent, il est très lent parce qu'il donne vraiment l'opportunité aux accusés de s'exprimer, de contester, de faire des nouveaux appels. Donc ça remonte la chaîne, et donc on se trouve dans la même situation d'avoir les mêmes éléments qui datent dans certains cas de plusieurs années, des traces de d'ADN, des éléments qui ont été trouvés ou perdus, et voilà, il y a des nouveaux juges qui arrivent et qui interprètent ça, mais d'une façon radicalement différente. Et donc, bien sûr, je pense que le consensus, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de pistolet fumant, comme on dit en anglais, il n'y a pas de preuve
absolue, bien sûr.
Les juges eux-mêmes disent une interprétation différente, où on prend chaque élément contesté et on accepte que chaque élément ne vaut rien et on jette tout par la fenêtre, ou on essaie de voir ça en entier et on essaie de construire quelque chose. Et dans ce cas-ci, c'est ce qui a eu la priorité cette fois-ci, c'est pour ça qu'ils ont été condamnés.
Alors, on vous retrouve dans un instant, on va faire une pause, on va retourner à Florence pour rejoindre Mario Spezi, parce que je crois que Mario Spezi va nous le confirmer, a assisté aux deux procès, c'est-à-dire au procès en appel où Amanda Knox et Raphaël Sollecito ont été acquitté par la justice italienne, et au procès qui vient de se terminer. Donc on retourne à Florence dans le temps d'une brève pause.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Amanda Knox, coupable ou innocente, nous retournons à Florence pour retrouver Mario Spezzi, qui est journaliste pour l'édition florentine du grand journal Corriere della Sera, qui a suivi donc ce procès. Et l'autre, hein, Mario, également.
Pardon ?
Vous avez également suivi
l'autre où ils ont été acquittés.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous avez assisté aux deux procès, il y a un certain nombre d'éléments, je pense, qui ont basculé dans la culpabilité là de Amanda Knox et de Raphaël et Sollecito, cette fois-ci, qui avait dû être au procès précédent, au contraire, faire penser la balance pour l'acquittement, non ?
Oui, c'est ça. Le procès qui vient de se terminer hier soir était pareil à l'autre. Je dirais même plus. À un certain moment, comme tous les résultats des investigations scientifiques sur l'ADN, etc., sont favorables aux deux accusés. Il n'y a rien. Aucun ADN, aucune empreinte de main, aucune empreinte de pied sur le lieu du crime.
Oui.
Il y avait sur un couteau qui était suspecté d'être l'arme du crime,
mm-hmm.
une petite trace qui n'avait pas été examinée dans le procès précédent.
Oui.
Et dans ce procès, a été examiné, et encore une fois, cela a été favorable aux accusés.
Là, je vous arrête là-dessus. Oui. Je voudrais avoir l'avis des autres et de Lionel Feuerstein, parce que moi, j'ai lu un peu le contraire en disant qu'on avait trouvé en fait l'ADN de la victime sur la lame et l'ADN d'Amanda sur le manche. Attendez, on va demander à Lionel.
Mario a raison. Mario a raison. Effectivement, ouais. Il n'y a pas de trace d'ADN de Meredith Kercher sur la lame. Il faut savoir que ce couteau, et je parle sous le contrôle de Mario qui connaît cette affaire comme sa poche, a été retrouvé par des enquêteurs quelques jours après le crime.
Oui.
Il était avec les autres couteaux, c'est-à-dire que l'habitude, quand vous êtes meurtrier, vous le jetez.
D'accord.
Là, il le retrouve, il
donc
dit
il
c'est l'instant de faire, et surtout, dans le studio, c'est-à-dire que le meurtrier, si on part du principe qu'Amanda et Raphaël sont les meurtriers, ils reviennent après avoir donné 47 coups de couteau dans le studio, ils posent le couteau à l'intérieur, et c'est le seul couteau qui a été examiné par les enquêteurs, c'est assez mystérieux.
Oui. Ouais,
et il y a juste un détail très intéressant. C'est l'expert scientifique indépendant qui nous explique ça dans le reportage, Walter Patoumi, qui nous dit que si, d'habitude, quand vous poignardez quelqu'un, vous avez du sang entre la lame et le manche.
Et qu'il y en a
pas, sang, même si vous le nettoyez, vous n'arrivez pas, il reste toujours quelque chose. Or là, on n'a rien trouvé. Mmh. Et on sait qu'on a retrouvé de l'amidon puisqu'il coupait le pain avec ce couteau-là, mais on n'a pas retrouvé d'autres ADN. On n'a retrouvé que l'ADN d'Amanda qui, effectivement, tenait le couteau.
D'accord.
Donc, on n'a pas d'arme du crime, en fait.
Oui, Mario ?
Oui, c'est ça. L'ADN d'Amanda, c'est normal, parce qu'elle vivait presque dans la maison de Raphaël, et donc elle employait ses couteaux pour couper le pain, etc.
John, attendez, laissez-moi juste dire pour qu'on vous comprenne et qu'on sache qui parle. C'est John Follin qui est à Rome et qui voudrait avoir la parole. Alors, vous l'avez, mon cher John.
Pardon, je vous interromps. C'est juste pour dire que oui, je confirme, en 2007, un test a bien trouvé l'ADN de Meredith Kercher sur la lame du couteau. Bien sûr, comme on disait avant, ça a été contesté. On a dit que la trace était trop petite. Le test ne pouvait pas être répété. Oui, effectivement, le test de la police scientifique a trouvé l'ADN de Meredith Kercher sur la lame.
Il a été fait
dont tout l'intérêt de ce couteau.
Bon.
Il n'a été fait qu'une fois et on n'a jamais pu refaire le test parce qu'il n'y en a plus. C'est assez extraordinaire.
D'accord.
Alors que normalement, il devrait en avoir beaucoup.
Ouais. Il n'y a pas de contre-expertise possible. Oui, Mario Spezzi, allez-y. Mario.
Je crois que John Follin, peut-être sans vouloir, il a mis le doigt sur le problème principal de ce procès. C'est-à-dire que, comme je disais, l'origine est à Pérouse au début de l'enquête. Cela vous étonne, mais il y a une liaison incroyable avec le cas du monstre de Florence. C'est-à-dire que le magistrat...
C'est un tueur, attendez, parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément, on va juste rappeler que le monstre de Florence, c'est un tueur en série, en fait, qui s'est attaqué pendant des années à des couples d'amoureux, notamment, et vous aviez d'ailleurs fait une remarquable enquête sur le sujet qui a débouché sur un livre. Voilà.
Ouais. Alors, j'essaie allez-y. d'être très, très, très bref, parce qu'autrement...
Vous avez raison, mais bon...
Disons que le magistrat de Pérouse, qui a ouvert l'enquête sur l'assassinat de Meredith, il était le même magistrat qui conduisait l'enquête sur le monstre de Florence, et qui s'était achevé en ce moment-là, c'était octobre 2007, dans un grand échec.
Ouais.
Lui-même, il avait été mis sous enquête, et d'ailleurs, il y a 15 jours, il vient d'être renvoyé, il sera sous procès.
D'accord.
Alors, de ce fait-là, il se passe à Pérouse, ville où il ne se passe jamais rien, heureusement, quelque chose de grave. C'est un faux crime. Ouais. Donc, en 4 jours, il veut le résoudre pour montrer que lui, il peut le résoudre très vite. Il résout le délit même avant d'avoir des réponses de la police scientifique.
D'accord. Oui, mais alors,
pardonnez-moi. À ce moment-là, il fallait défendre n'importe comment.
D'accord, on a compris. On a compris que.
Et alors, je vais vous dire une chose et c'est fini.
Oui,
hier soir, en attendant
le verdict,
on parle entre journalistes. Ouais. Eh bien, tout le monde, ou n'intéressait pas s'ils étaient coupables ou pas, le problème était est-ce que ce tribunal va défendre la magistrature de Pérouse ou bien non ? Ça, c'était le problème.
Bon, alors, on fait une pause. On retrouve tout le monde après, parce qu'effectivement, tout à l'heure, Lionel, je crois, nous disait, Lionel Feuerstein, que l'affaire n'était pas terminée encore. Il faudra qu'on comprenne ça, parce que là, il y a eu hier un verdict, donc, de 28 ans de prison pour Amanda Knox, de 25 ans, je crois, pour Raphaël Sollecito. Donc, on va continuer à éclaircir ça. Et puis, on va entendre un document RTL. C'est tout simplement ce qu'avait dit juste avant que le tribunal qui les a finalement innocentés il y a donc en 2010, ce qu'avait dit à la cour à la fois Amanda Knox et Raphaël Sollecito qui clamaient leur innocence.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Émission spéciale sur l'affaire Amanda Knox. On va entendre ce document RTL auquel je faisais allusion il y a un instant. Nous sommes le 3 octobre 2011. Le verdict d'innocence est tombé en fin de soirée. Les deux accusés sont acquittés. C'est un véritable coup de théâtre. Et RTL, on entendait avant la délibération du jury Amanda Knox et Raphaël Sollecito qui avaient pris la parole devant la cour pour clamer encore une fois leur innocence. Écoutez.
Je veux rentrer à la maison. Je veux retrouver ma vie. Je ne veux pas être puni, privé de ma vie, de mon futur pour quelque chose que je n'ai pas fait. Parce que je suis innocente. Il est innocent.
Sur ce bracelet, il y a écrit « Libérer Amanda et Raphaël ». Et c'est un bracelet que je n'ai jamais quitté depuis qu'on me l'a offert. Du coup, il est sale. Je pense que c'est maintenant le moment de le retirer.
Voilà, quelques heures plus tard, après la délibération, ils étaient acquittés. C'est un document qu'on voyait aussi, je me suis trompé, pardon, Lionel Feuerstein, dans votre film diffusé dans 13h15 le samedi. C'est entre les documents RTL et les documents France 2, là, aujourd'hui, je m'y perds un peu. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, Lionel. D'abord, on va à Rome rejoindre John Follin pour une question très précise. John, on a compris qu'il y avait donc cette bataille à la fois d'experts, cette incompréhension. Enfin, si on suit ce que dit Mario Spezzi, qui n'est pas forcément votre propre religion sur l'affaire, mais il n'y a pas de preuve vraiment, en tout cas, absolue de tout cela. Vous le rappeliez vous-même tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer maintenant judiciairement dans cette affaire ?
Alors, on recommence. Pas tout à fait à zéro, mais maintenant, les avocats pour Amanda Knox et Raphaël Sollecito donc, vont faire appel à la Cour suprême en Italie. Mmh. Dans le système italien, c'est seulement la Cour suprême qui peut émettre un jugement définitif qui serait le dernier mot sur l'affaire. Ouais. Et donc ça, on pense que ça va venir en tête au printemps de l'année prochaine. Ouais. Et là, bien sûr, on va encore batailler, peut-être qu'il y aura des nouvelles expertises de demander, peut-être pas. Peut-être que la Cour suprême s'appuiera simplement sur les conclusions de Florence et évaluera si elle est d'accord ou pas. Et à partir de là, si ils sont encore confirmés coupables, peut-être une dernière fois, à ce moment commence la grande bataille pour ou contre l'extradition d'Amanda Knox.
Bien sûr.
De l'Amérique. Oui.
Et entre-temps, Raphaël Sollecito, donc il va être assigné plus ou moins à résidence, ou en tout cas, il va avoir l'interdiction de quitter le territoire italien, mais il n'est pas incarcéré. bien que condamné à 25 ans.
Oui, on lui a retiré son passeport, ouais. Et donc il ne peut pas quitter, peut pas quitter l'Italie, c'est ça.
D'accord. Mario Spezi à Florence à nouveau. Est-ce que, je m'aperçois qu'on a, on l'a pas dit, et peut-être vous avez la réponse à cette question, pour quelle raison en fait la Cour de cassation italienne avait cassé le jugement d'acquittement? Pourquoi il y a eu un troisième procès? Parce qu'on nous demande ça au standard d'RTL.
C'est une décision que beaucoup d'experts ont un peu regardé avec beaucoup de suspect, disons, et de...
Étonnement.
Oui, parce que, disons que la Cour de cassation en Italie n'exprime pas un nouveau jugement sur les faits, mais elle est là simplement pour donner son avis sur le fait que le procès a été... conduit avec le respect des règles.
Ah oui, d'accord.
C'est ça, donc c'est seulement ça qu'elle doit donner. Elle ne doit pas entrer dans le fait. Alors que dans ce cas-là, elle est un peu allée un peu plus loin de ses compétences. Elle est allée à dire, mais certains témoignages n'ont pas été très bien écoutés. Certaines expertises n'ont pas été éclaircies au fond. Il faut mettre ensemble ça et ça. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis tout ça.
C'est d'accord. Ben, c'est une réponse très claire. On comprend pourquoi il y a eu un troisième procès. Alors, question que je poserai après à John Follin, Mario Spezi, qu'est-ce qui pour vous a emporté le jury dans le sens de la culpabilité cette fois-ci?
C'est pour moi?
Oui. Mario?
J'ai pas compris parce que la voix est un peu portée à la fin.
Pardon. Je voulais dire, pour vous, Mario Spezi, quel est l'élément de ce, ou les éléments de ce dernier procès qui ont entraîné le jury à se prononcer pour la culpabilité?
Eh ben, je suis assez critique envers la magistrature italienne, je dois le dire, en général. Et je crois que avoir acquitté un mandat et Raphaël Esla aurait voulu dire très mal, quelque chose de très mal sur le tribunal de Pérouse et sur toute la police de Pérouse qui avait conduit l'enquête.
Ça aurait été un constat d'échec et donc en disant l'enquête mal faite, l'instruction à charge, etc.
Oui. Je crois qu'il y a désormais en Italie, il y a souvent des verdicts, moi je les appelle staliniennes, c'est-à-dire... qu'on ne regarde pas la personne qui est discutée, mais les effets, entre guillemets, politiques, d'accord. Les effets qui pouvaient avoir une sentence. D'accord. Et la magistrature italienne, en ce moment, est très puissante, et elle défend toujours soi-même. Voilà.
D'accord. John Follin, c'est votre avis?
Jacques, on va le savoir dans quelques semaines quand les magistrats, quand les juges publieront, comme c'est la pratique en Italie, un long document pour expliquer comment ils sont arrivés à cette décision. Juste pour dire que dans la lignée de cette affaire sans fin, faut quand même noter qu'il y a plus d'une quarantaine de magistrats à différents niveaux qui ont été persuadés de différentes façons, bien sûr, de la culpabilité d'un Mandanox et Raphaël et Sollecito. Dans ce cas-ci, je pense que comme il n'y avait pas d'éléments majeurs, nouveaux, frappants dans le procès de Florence, je pense que c'est plutôt une réinterprétation de tout ce qui a été d'accord. Fait et dit précédemment.
D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, John Follin. Merci, Mario Spezi. Je voudrais retourner maintenant vers Lionel Feuerstein. Donc, vous avez diffusé ce reportage, ce document réalisé sur place et avec tous les témoins et puis Amanda Knox aux États-Unis. Qu'est-ce que, pour vous, bien sûr, vous n'avez pas, vous, rencontré Amanda Knox, mais Maryse Burgot l'a fait. Elle avait parlé à Maryse Burgot, est-ce que vous savez ça, off, si j'ose dire, de la réaction qu'elle aurait si elle était condamnée?
Alors, à moi, non. À Maryse, off, je ne sais pas. En tout cas, elle s'est exprimée, et Mario Spezi l'a eu quelques jours avant le début du procès aussi, peut-être qu'il peut nous en dire un mot sur son état d'esprit. Elle s'est exprimée, elle a dit très clairement que si jamais il y avait un verdict qui montrait sa culpabilité, elle se battrait pour aller jusqu'au bout, et elle vivrait comme une fugitive.
Ah d'accord. Mario Spezi, donc vous l'avez eu, Amanda Knox,
Elle m'a dit qu'elle était effrayée. Et que, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en Amérique qui sont convaincus de leur de son innocence, mais il y a au contraire beaucoup qui sont convaincus de sa culpabilité et oui. qu'elle est effrayée. Quand elle sort le matin de sa maison, elle doit se regarder derrière ses épaules.
Oui, bien sûr.
On peut peut-être juste dire un mot sur l'extradition, hein, d'ailleurs. Hein,
parce allez-y, oui.
Parce que il n'y aurait pas d'extradition, car pour le droit américain, personne ne peut être jugé deux fois pour le même crime.
Alors, a priori, ce que dit Mario est exact, mais certains experts qui ont été interrogés par des agences de presse disaient que les Américains étaient les premiers à demander à ce qu'on extrade d'autres ressortissants, je pense à Snowden notamment, et que, comme ils ont des accords d'extradition avec l'Italie, il serait difficile, dans un cas comme celui-ci, de ne pas extrader Amanda Knox. Ceci dit, il y a des procédures d'appel aussi, donc c'est une affaire dont on va encore parler longuement.
D'accord. Dernière question à John Follett. Là, il y a Mario Spezzi, puisqu'ils ont suivi ces procès pour leurs médias respectifs. John Follett, pour le Sunday Times, comment est-ce que vous avez titré votre papier après le verdict?
Oh, pardon, il est en cours d'écriture cet après-midi, donc on écrit d'abord le papier, ensuite on verra pour le titre.
Trop tôt vraiment pour le titre, vraiment?
Trop tôt, Jacques.
Il y aura un point d'exclamation ou un point d'interrogation dans le titre?
Dans le texte, il y aura un point d'interrogation, ça c'est sûr.
Mais pas dans le titre forcément, d'accord. Bon, bah écoutez, merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes le correspondant en Italie pour le journal Sunday Times. Mario Spezzi, vous avez fait un papier pour le Corriere della Sera sur...
Je dois encore l'écrire cet après-midi.
Ouais, vous avez une idée de titre déjà ou pas?
Non, pas de titre, mais je parlerai surtout des doutes qu'il y avait hier soir... De l'atmosphère qu'il y avait avant le verdict.
D'accord. Et dernière question pour vous, Lionel Feuerstein. Est-ce qu'il y aura une suite au documentaire qu'on a vu donc la semaine dernière sur France 2?
On était déjà dans une affaire hors norme. Là, je pense qu'on touche quand même au sublime. Hein. on a rarement des histoires aussi fortes à raconter. Et je pense que très certainement, on fera une suite au 13h15. En tout cas, c'est la volonté de Laurent Delahousse.
Ne serait-ce que pour retrouver, évidemment, Amanda Knox en interview après ce qu'elle avait déjà dit dans le document qu'on a vu. Quoi.
En tout cas, il y aura un sujet de Maryse Burgot dans le journal 20h de ce week-end.
Je vous remercie beaucoup, merci infiniment Lionel Feuerstein, merci donc à John Follett et à Mario Spezzi qui étaient les trois parmi les journalistes, les trois journalistes connaissaient le mieux ce dossier, puis on avait trois regards quand même, un français, un italien et un britannique. L'émission est maintenant terminée, à vous de vous faire une opinion, on vous tiendra au courant évidemment s'il y a des suites judiciaires à l'affaire, et on va retrouver donc Flavie Flamand dans quelques secondes.